Comme nous sommes reconnaissants à notre Dieu, il n'y a tout simplement pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons à ce sujet lorsque nous nous recueillons et que nous réfléchissons au privilège qui nous a été accordé. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'exagération, c'est la vérité. Dieu nous a parlé. Il nous a fait connaître sa parole et sa volonté. Là aussi, il nous a aidés à placer le ministère d'un prophète de nos jours dans un équilibre total. Nous ne venons pas ici pour dire « Paul dit et Paul dit » ou « Pierre dit et Pierre dit » ou « Branham dit, Branham dit ». Nous venons ici, nous ouvrons la sainte parole de Dieu et nous laissons le même Dieu nous parler. Celui qui a parlé par les prophètes, qui a envoyé les apôtres, qui nous parle encore aujourd'hui par l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous sommes reconnaissants d'avoir reconnu que le Seigneur a promis un prophète pour notre époque qui devait ramener le cœur des enfants de Dieu vers le cœur des pères. Et il est écrit, Dieu a parlé au Père dans les temps anciens de diverses manières. Bien-aimés, c'était frère Kramer qui a dit tout à l'heure, frère Frank, je suis tellement reconnaissant. Parce que quand j'étais encore tout jeune, le pasteur disait que si nous ne prenions plus l'Ancien Testament, alors nous perdions bientôt le Nouveau. Si nous ne prenions plus l'Ancien Testament, alors nous perdrions bientôt le Nouveau. Et c'était à peu près ça, frère Kramer, n'est-ce pas? Et c'est ainsi. C'est aussi le cas. Nous avons les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons les annonces, les prédictions, la prophétie, les promesses, puis leur accomplissement et l'expérience de ce que Dieu a promis personnellement. Pour cela aussi, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Il a effectivement envoyé frère Branham, comme il a envoyé un Moïse ou un Élie, avec une mission très particulière, avec un mandat très particulier. Mais personne ne doit attendre de nous que nous nous tenions ici et disions qu'Élie a dit, Élie a dit. Aucun homme sur terre ne doit nous prendre pour des idiots à ce point. Nous proclamons tout le conseil de notre Dieu et nous n'avons pas l'esprit d'idolâtrie qui nous pousserait à glorifier un prophète ou un fils de prophète ou un disciple de prophète. Nous glorifions le Dieu de tous les prophètes et c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le vrai, oui, le seul vrai Dieu. Et alors nous remarquons déjà, comme nous venons de le remarquer, que nous n'avons pas l'esprit d'idolâtrie, mais l'esprit de Dieu, qui ne fait pas de différence, qui ne défavorise pas ici et ne privilégie pas là, qui prend quelque chose ici et laisse quelque chose là, non. Mais l'Esprit de Dieu prend toute la parole, l'assemble, et cela donne un tout harmonieux. Et cela aussi, nous l'avons vécu en ce lieu, année après année. Il y a quelques jours, ce qui est très rare, j'ai entendu un sermon que j'ai moi-même tenu lors d'une conférence au Prince Albert en 72, donc 72. Et je me suis dit, écoute donc ce que tu as prêché à l'époque. Bien-aimé, cela aurait pu être une prédication d'hier ou d'aujourd'hui, tenue en 72, en 72. J'ai été moi-même tellement surpris et j'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à croire que toutes ces choses étaient déjà là au départ. Et au début, et qu'elles sont maintenant encore plus développées. et nous voyons aujourd'hui plus clairement ce que nous avons vu déjà à l'époque. Mais le message global et la direction étaient les mêmes dès le commencement. Nous n'avons pas dû changer une seule fois de cap. Cela aussi est une grande grâce auprès de Dieu. Combien de personnes ont planté leur drapeau ici et puis ça a été dans cette direction. Puis la vapeur s'est éteinte, puis le drapeau suivant est arrivé, puis il est parti dans cette direction. Puis la vapeur s'est à nouveau éteinte, puis le cheval suivant a précédé le char suivant. Non, Dieu n'a toujours qu'une seule direction. Et je veux vous dire cela aussi très clairement. Ce n'est pas le mérite d'un homme. Cela aussi disait frère Kramer tout à l'heure. Si Joseph ne s'était pas montré fidèle, il n'aurait pas pu distribuer la nourriture. Mais qui l'a gardé fidèle? C'était Dieu qui l'avait désigné, déterminé à cela. Et donc, il n'y a pas d'homme qui puisse se vanter, se glorifier. Si Dieu ne nous avait pas maintenus dans les limites de la parole, s'il ne nous avait pas donné le lien direct avec la parole, nous aurions nous aussi été ballottés et emportés par chaque vent d'enseignement. C'est seulement le Seigneur qui nous a maintenus et il nous maintiendra jusqu'à la fin. Je le sais, tout simplement. Car celui qui a commencé est assez fort pour l'exécuter et l'accomplir, et cela avec une grande puissance et grande gloire. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu a déjà fait de grandes choses en nous et il en fera de plus grandes encore. Il suffit d'être toujours d'accord avec la parole, d'aller toujours avec elle, de la suivre, de dire toujours oui et de devenir plus reconnaissant comme nous l'avons été jusqu'à présent. Plus de foi, attitude positive envers Dieu et sa parole. Cessez de vous plaindre, enlevez les harpes des pâturages ou des murs. Le Seigneur revient à Sion et nous pouvons nous réjouir à nouveau de notre Dieu. Notre Dieu a avec nous des pensées d'amour et de paix. L'ennemi veut toujours s'interposer. Ah, c'est dit. Et il dit, oh, oui, tu vas y arriver. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Et ainsi de suite, tu n'es pas encore en bonne santé. Tu n'as pas une bonne santé. Tu es encore très faible. Tu as encore des infirmités. Et maintenant, tu as encore ceci, tu as encore fait cela. Celui qui écoute l'ennemi ne sera pas heureux, ne sera pas heureux dans la vie. Mais celui qui offre des actions de grâce au Seigneur le glorifiera. Et le Seigneur devient alors notre force. Nous devons décider de ce que nous voulons. Si nous voulons nous morfondre et entendre ce que l'ennemi veut nous souffler, puis nous résigner et aller ainsi tristement, ce serait une possibilité, mais pas la bonne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. C'est ce qui est écrit dans la lettre aux Philippiens. Paul aussi a dû passer par beaucoup de choses. Il a reçu des coups. Il a fait naufrage. Vous pouvez tous le lire dans le chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. Et pourtant, le Seigneur était sa force. Sa force. Il a mis son espérance dans le Dieu Tout-Puissant. Je suis tellement reconnaissant, tellement touché. Et je vais aussi vous le dire pourquoi. Il n'y a pas ici de grand homme qui nous aurait montré, dit ou enseigné quelque chose. Mais le grand Dieu a eu pitié de nous. Il a pris ce qui n'est rien dans le monde pour faire quelque chose dans son royaume. Et tu en faisais partie et moi aussi. Nous ne sommes rien. Nous sommes un rien, mais c'est seulement Dieu qui a pu faire quelque chose de nous. Loué soit son Saint-Nom, son nom glorieux. Ici, nous avons tous chanté avec « Ô âme, avec joie, donc ô âme courbée par les souffrances de la terre et de ce fardeau, tu te tiens debout, lève ton cœur et ta tête. Dans cette ville, il y aura du repos et de la joie et une gloire éternelle. » pour celui qui croit. Tout dépend de la foi. De quelle foi s'agit-il? De la foi qui a été transmise et, oui, transmise et remise au sein, une foi pour toutes. Pas de n'importe quelle foi, mais de la foi unique qu'Abraham, de la foi unique qu'Abraham connaissait déjà. Et comme il est écrit, Abraham croyait Dieu, a cru Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Et lorsque nous avons trouvé ce Seigneur unique et que nous confessons le baptême biblique unique, il ne nous reste plus que la foi biblique unique. La foi dans le Dieu vivant qui s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Caché pour les uns, révélé pour les autres. C'est cette unique, c'est cette foi unique, unique, ancrée dans la parole de Dieu, fondée sur les promesses, opérée en nous. C'est ce qui importe. Et c'est elle seule qui compte. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture. » Si l'on parcourt aujourd'hui les pays dits chrétiens et autres, et que l'on demande, « Crois-tu ?» Ils croient tous. Tout le monde croit n'importe quoi. Tout le monde croit quelque chose, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la foi dont parle l'Écriture, les Saintes Écritures. La foi dont Dieu parle, c'est une substance opérée en nous par l'Esprit et la parole. C'est une substance divine. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la traduction anglaise du chapitre 11 des Hébreux. La foi est une substance de ce que l'on espère et que l'on ne voit pas encore. Ainsi, la foi considère les promesses de Dieu comme si elles existaient déjà, comme si elles étaient déjà devenues une réalité divine. Jean a d'ailleurs vu beaucoup de choses sur l'île de Patmos, y compris la ville sainte dont nous avons chanté. Laissez-moi vous le lire dans Apocalypse, le chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 2. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, une Jérusalem nouvelle, vêtue comme une épouse, parée pour son époux. Puis j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Oui, Dieu lui-même sera au milieu d'eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de lamentation. Et il n'y aura plus de douleur. Car les premières choses ont disparu. Alors celui qui était assis sur le trône, dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Puis il poursuivit, écrit, « Car ces paroles sont sûres et certaines. » Vous pouvez encore poursuivre la lecture. Quelle description merveilleuse! Quel jour ce sera lorsque nous entrerons dans Zalem, lorsque nous marcherons sur les ruelles dorée, sur les rues en or, cher cœur, qui peut le croire? Ce sera une réalité. Notre Seigneur nous l'a promis avant de quitter cette terre en disant, « Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurait dit. Mais c'est ainsi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous avons une espérance vivante dans notre âme et nous en sommes également reconnaissants du fond du cœur. Ici, sur terre, il y a encore la mort. Seuls ceux qui seront encore vivants et qui resteront lors du retour direct du Seigneur ne verront plus la mort naturelle, mais seront transformés et enlevés avec les premiers ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc enlevés avec ceux qui ressusciteront premièrement à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais d'ici là, d'ici cet instant, plus d'un frère et plus d'une sœur rentreront dans la gloire si le Seigneur ne venait pas déjà immédiatement et sans délai. Ce qui est beau, c'est que même ceux qui comptent sur le retour direct du Seigneur et qui s'y attendent quotidiennement ou à tout moment, restent malgré tout sobres et lucides jusqu'à la venue du Seigneur. Nous devons en effet agir jusqu'à sa venue. Et comme nous ne savons pas quand il viendra, nous pouvons encore faire des projets concernant ce qui doit être encore fait dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et si le Seigneur vient avant, alors tout est terminé. Son plan est achevé. Son plan est alors achevé. Mais comme nous l'avons déjà dit, entre-temps, il y a encore de la douleur, des larmes, de la souffrance. Nous pensons à quelques personnes qui nous tiennent directement à cœur, à la sœur Kaufmann en particulier, la sœur du frère Kupfer, et à quelques autres qui doivent passer par la maladie, par des épreuves, en s'accrochant d'une part à la parole dans ses maîtres sûrs, je suis guéri. D'autre part, lorsque vient un certain âge, et que des membres de notre corps sont frappés par la maladie et que la mort trouve une cause pour nous emporter, il en a été ainsi pour tous les prophètes et tous les apôtres et hommes de Dieu. Quand l'heure est venue, eux aussi ont dû partir, mais ils sont partis avec la vivante espérance d'avoir part à la première résurrection de cette terre. Et ils seront là quand le Seigneur reviendra, car il ne meurt pas. Un homme qui a la vie éternelle ne fait que passer du temps à l'éternité. Jésus a dit alors, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Amen. Nous vivons pour l'éternité. Lorsque Lazare est mort, notre Seigneur a dit, « Il ne fait que dormir. Je vais le réveiller. » Il ne s'agit en effet que de s'endormir, de se dire au revoir sur terre, de s'endormir ici et de se réveiller là-bas. Alléluia! Gloire à Dieu! Aucun croyant ne doit avoir peur de la mort. Le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer et nous a ouvert la voie vers le haut. Il a frayé la voie vers le haut. Il a dit dans l'évangile de Jean au premier chapitre, dans les derniers versets, « Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de l'ouverture des cieux. Étienne a vu les cieux ouverts et il a vu Jésus comme le Fils de l'homme. Cela aussi est important à lire. En tant que Fils de l'homme, à la droite de la majesté de Dieu, nous ne pouvons pas entrer maintenant dans le détail de ces choses, car vous savez tous qu'il doit rester comme et qu'il doit rester souverain, sacrificateur, jusqu'à l'achèvement de l'Église selon l'ordre de Melchisédek, car c'est en tant que souverain sacrificateur qu'il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Il reste notre intercesseur jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la perfection en tant qu'Église tout entière. Et c'est pourquoi il est aussi désigné comme fils jusqu'à la fin. Et puis, il est si bien écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, que alors le Fils se soumettra lui aussi au Père. Et alors ce sera Dieu tout en tous, comme Dieu l'avait prévu, de sorte que le cercle se fermera et que l'achèvement aura lieu dans tous les rachetés. Nous apparaîtrons alors comme des fils et des filles de Dieu à part entière, et il n'y aura alors plus de désignation de père et de fils, père et fils, mais alors ce sera de nouveau Dieu tout en tous, comme il l'était de toute éternité. Ainsi, la révélation de Dieu en Christ aboutira à nouveau en Dieu lui-même, après que le sens et le but de la révélation divine en Christ en tant qu'homme se sont accomplis. L'avons-nous tous compris? Je vais peut-être vous le lire pour que vous sachiez que c'est écrit. Il n'est tout simplement pas possible de l'exprimer aussi précisément en parole, car il n'y a pas de mots pour cela. L'homme qui veut décrire les révélations de Dieu ne trouve pas les mots justes. C'est tout simplement trop puissant. On ne peut qu'essayer. Je lis dans 1 Corinthiens au chapitre 15 du verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 23. Mais chacun en son rang, selon sa propre répartition, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Vous lisez tous avec moi? Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il doit régner comme roi jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis, tous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira ensuite, tout lui est soumis, cela exclut bien sûr celui qui lui a soumis toutes choses. Mais dès que toutes choses lui seront soumises, le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme nous venons de le dire, la révélation de Dieu dans le Fils et l'établissement de la relation de filiation ont atteint leur but. Donc, l'établissement de la relation de Fils aura atteint son but. Pourquoi il est écrit? Il a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs afin que vous puissiez crier « Abba Père, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Lui, le premier-né parmi de nombreux frères. Et pourtant, malgré tout, le Seigneur de tous les seigneurs et le roi de tous les rois, qui peut expliquer cela? Aucun homme ne le peut. Ce n'est pas non plus nécessaire. Il nous suffit de le croire. Dans Éphésiens, chapitre 2, quelque chose de merveilleux nous a été lu. Je ne voudrais pas répéter tout. Seulement le 10e verset, Éphésiens 2. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Car c'est à lui que nous appartenons, étant son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance, afin que nous puissions marcher en elles. Car c'est à lui que nous appartenons, étant son ouvrage. Même ce que nous faisons et qui sera et qui subsistera devant Dieu, ce n'est ni toi ni moi qui l'avons fait. C'est Dieu qui l'a déjà préparé pour nous. Dieu a déjà tout arrangé et ordonné de telle sorte qu'il n'y a plus qu'à passer par nous pour l'exécuter. Et alors, ce n'est plus quelqu'un qui a besoin d'être glorifié ou honoré, non. Mais celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur. Pensez donc à frère Branham, comme on le voit dans le film. Aucun évangéliste n'a été aussi impuissant que lui. Quand on a vu les évangélistes, et je les ai presque tous vus et entendus, ils n'étaient jamais à bout de souffle. Hein. On ne savait parfois pas quand est-ce qu'ils respirent et reprenaient leur souffle, car ils parlaient comme s'ils s'étaient tirés par une mitraillette. On ne remarquait même pas qu'ils rechargeaient. On avait l'impression qu'ils avaient un chargeur long comme le bras et qu'ils ne faisaient que tirer. Ils n'étaient jamais embarrassés. Tout fonctionnait, tout marchait comme si des roulettes, n'est-ce pas? Ils n'étaient jamais embarrassés sur la plateforme. Mais il y a eu un homme. C'était un véritable homme de Dieu, un prophète, avec la crainte de Dieu dans le cœur. Il se trouva soudain impuissant et dit, « Là, je suis comme chacun d'entre vous. Sans lui, je ne peux rien faire. » Notre Seigneur n'a-t-il pas dit cela aussi? Il a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai lu un jour un article d'un pasteur qui était croyant et son cœur s'est mis à battre. Il a alors composé et écrit comme une poésie. Seigneur, nous avons tout pris entre nos mains. Nous avons choisi ce métier, cette profession sans toi. Nous avons prêché sans toi. Nous avons accompli tous les actes sans toi. et a ensuite toujours mis le mot « sans toi » et « sans toi » et « sans toi » derrière chaque phrase. Et à la fin, il est allé droit au but et a dit « Seigneur, permets-moi de faire désormais de ne rien faire sans toi, mais tout avec toi, tout ce que j'ai auparavant fait mal sans toi, que je puisse réparer tout en le faisant maintenant avec toi. » Et c'est notre chemin à tous, notre expérience à tous. Sans le Seigneur, nous avons tout fait de travers, mais avec le Seigneur, nous ne pouvons que tout faire correctement, car il a déjà préparé pour nous à l'avance les œuvres qui doivent être accomplies afin que nous puissions y marcher. Encore une parole du prophète Esaïe. Je ne peux rien faire d'autre. Je dois toujours aller dans l'Ancien, repartir dans l'Ancien Testament. Ça nous montre l'orientation. Ça nous montre le chemin de Dieu, le chemin du salut que nous trouvons ensuite dans le Nouveau Testament, dans sa réalisation. Esaïe 45, une parole très merveilleuse, au verset 11. Esaïe 45, dès le verset 11. Ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël et celui qui l'a créé, sur les choses à venir. Consultez-moi, que mes fils et l'ouvrage de mes mains me soient confiés. Ici, il ne parle plus aux serviteurs, aux servantes. Ici, il parle à ses fils en tenant compte du fait que la relation de fils, la relation de filiation a été établie entre Dieu et l'humanité en Christ. Sur les choses à venir, consultez-moi, interrogez-moi. Mes fils, et que l'œuvre de mes mains me soit confiée. Aujourd'hui, j'ai à cœur de remettre l'œuvre de Dieu entre les mains de Dieu et de dire, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire, nous ne savons pas comment, ni quand, ni où. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous et ton œuvre, nous nous remettons, nous et ton œuvre, entre tes mains. Seigneur, fais de nous ce qui te plaît. Est-ce cela ton souhait? Est-ce cela ta prière sincère? C'est mon souhait et ma prière que nous remettions son œuvre entre ses mains. Combien de fois a-t-elle été retirée de ses mains, son œuvre? Chaque évangéliste et chaque tendance a fait l'œuvre de Dieu à sa manière. Le temps de Dieu est venu de lui confier son œuvre et de la lui laisser de manière toute nouvelle et consciente en disant, Seigneur, nous sommes ici pour te laisser agir. Nous sommes ici pour écouter ta parole. Nous sommes ici pour faire une nouvelle expérience avec toi. Nous remettons entre tes mains ta parole, ton œuvre, ton peuple et nous-mêmes, le royaume de tout le royaume de Dieu tout entier, et nous te le confions. Et vous savez déjà quelle sera la réponse. Il le fera, prospérer et le fera sortir glorieux au jour de son retour. Donc se référant ici au royaume, il n'a pas dit qu'un prophète ou un apôtre le fera sortir glorieusement. Non, comme nous l'avons souvent dit, il y a des choses que le Seigneur lui-même fait. Lui-même, quand il envoie une parole, il envoie ses serviteurs et ses prophètes tôt donc matin et soir, quand il s'agissait de la rédemption, alors il est venu lui-même. Il est devenu notre rédempteur. Il a versé son sang sur la croix à Golgotha. Il a donné l'ordre missionnaire. Lui seul peut sauver. Lui seul peut guérir. Lui seul peut sauver et béatifier. Que son œuvre lui soit confiée de manière toute nouvelle et consciente. Celui qui a commencé achèvera glorieusement. Lorsqu'il s'agit de la préparation, lorsqu'il s'agit de préparer le chemin, quand il s'agit du message de l'heure, alors il envoie un prophète pour placer la parole prophétique sur le chandelier. Puis, quand viendra l'achèvement, il reviendra lui-même avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Celui qui bâtit lui-même son église l'achève, puis il reviendra ensuite la chercher pour la ramener à la maison. Il y a des gens qui aimeraient être ramenés à la maison par un prophète. Je ne peux pas dire cela. Je veux être ramené à la maison par mon Seigneur. Qu'il soit le premier que je verrai quand je serai enlevé de cette terre. Et je vous le dis dès maintenant, même si nous sommes alors changés et réunis ensemble et que nous serons enlevés majestueusement et que nous nous verrons les uns les autres, chacun de nous aura quand même un désir. Chacun de nous aura quand même un désir de voir Jésus. Tous les regards de ceux qui sont enlevés ne sont pas tournés vers la droite et la gauche. Ils sont tournés vers l'avant, vers le haut. Nous aimerions voir Jésus. Et après l'avoir vu, nous verrons bien sûr tous ceux que nous aimons, Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes, et bien sûr aussi notre bien-aimé frère Branham. Je ne veux pas être mal compris. Nous n'aurions pas de message divin actuel aujourd'hui si Dieu n'avait pas envoyé cet humble prophète pour nous ouvrir les yeux et nos cœurs afin que nous sachions ce qui doit se passer dans le royaume de Dieu. Et nous en sommes reconnaissants de tout cœur. Seulement, j'ai déjà compris cela de manière naturelle. On ne s'arrête pas au panneau indicateur. On continue à avancer jusqu'au but. Beaucoup s'arrêtent à un panneau indicateur. Et les hommes de Dieu peuvent être utilisés comme des panneaux indicateurs, comme des guides de Dieu. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce panneau. Nous voyons où nous avons été guidés. Le but est devant nos yeux et nous allons de l'avant grâce à la puissance de Dieu, la puissance de la nourriture spirituelle que nous avons reçue. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Là aussi, il y a une différence de taille. Éloigné du ciel de la terre. Certains organisent la danse autour du veau d'or et que cela soit loin de nous. Lorsque Moïse a été amené sur la montagne et n'en est pas descendu pendant 40 jours et 48, tout s'est passé en un clin d'œil. Il y avait de la musique et de l'ambiance dans le camp. On dansait et on se réjouissait. Mais quand le prophète est descendu et a vu ce qui se passait, il a frappé avec un marteau, n'est-ce pas, et a brisé cette idole, ce veau, et a mis fin à la chose. à la situation. Dieu n'envoie pas un prophète pour que nous pratiquions l'idolâtrie. Dieu envoie un prophète pour retirer de nous l'esprit d'idolâtrie. Dieu nous envoie un prophète pour retirer de nous l'esprit d'idolâtrie et nous relier à lui par la sainte parole inspirée par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons l'esprit qui est de Dieu et nous reconnaissons ce qui nous a été donné par Dieu. Certains voudraient savoir avec quelle main le prophète tenait la fourchette, s'il la tenait à l'envers comme les Anglais ou s'il la tenait à l'endroit comme les autres Européens. Certains voudraient savoir ceci ou cela, s'il dormait au pied ou à la tête. Tout cela ne m'intéresse pas. Une seule chose m'intéresse, c'est la sainte parole de Dieu dont il a été chargé, le message de l'heure. Et nous l'avons reçu et révélé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas non plus si Jean-Baptiste a dormi à la tête ou au pied du lit. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu fait, c'est ça qui m'intéresse. Mais vous savez très bien qu'il y a toutes ces choses parmi le peuple. Et là, on remarque d'emblée que ces gens n'ont pas du tout compris de quoi il s'agissait. Ils ont en eux l'esprit d'idolâtrie. Et si le prophète venait, il baiserait effectivement ses pieds. Et alors il pourrait tout de suite aller à Rome, car c'est là que se trouve la statue de Pierre, et c'est là aussi qu'on embrasse le pied du matin au soir, n'est-ce pas? J'ai regardé tout le monde, c'est où se trouve cette chose et où tout le monde pratique l'idolâtrie. Non, laissez-moi vous le dire en toute clarté. Dieu nous a fait sortir de toute confusion, de toute imitation de chaque homme. Et ici, il n'y a personne qui suit un frère Branham ou un frère Franck. Ici, il n'y a que des disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous les autres peuvent rester chez eux. Nous n'avons pas besoin de l'esprit d'idolâtrie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous révèle pas le dépouillement d'une vie d'un prophète, mais la parole que Dieu nous a adressée par son intermédiaire. C'est vrai ou pas? Et puis nous avons été mis à jour ainsi dans le royaume de Dieu. Récemment, on m'a demandé si je ne participerais pas à la venue du fils du prophète, si je ne viendrais pas prendre part aux réunions quand le fils du prophète viendrait. Ce serait une chose très spéciale et ainsi de suite, hein, n'est-ce pas? Oui, les fils de prophètes et les fils de prophètes ici et là. Ce qui nous intéresse, c'est le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Samuel était un tel grand prophète et il devait annoncer à Élie le jugement de ses fils. Lorsque le grand prophète Samuel devint vieux, les anciens d'Israël vinrent le trouver et lui dire: Samuel, tes fils ne marchent pas dans les voies de Dieu. Un grand prophète était affligé. Il ne pouvait rien y faire. Il ne pouvait rien changer. Suivre Jésus-Christ est indépendant de la réputation, du rang et du nom. La dépendance est à prendre uniquement par toi personnellement. À savoir, créer une relation entre toi et Dieu. Nous ne sommes pas ici pour établir un lien avec un prophète. Nous sommes ici pour apporter au peuple de Dieu l'ensemble du témoignage des Écritures. L'ensemble du témoignage prophétique et apostolique. Et pour mettre ainsi le peuple de Dieu en communion avec Dieu au sujet des choses à venir. Consultez-moi, mes fils, et que l'œuvre de mes mains me soit confié. Aujourd'hui, je voudrais le dire du fond du cœur. Seigneur, nous remettons ton œuvre entre tes mains et nous nous reposons avec ton œuvre sur ton autel en n'ayant qu'une seule demande. Aie ta voix avec nous tous. Fais ce que tu as décidé de faire avec l'Église. Nous sommes à ta disposition. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens, Seigneur, au milieu de nous et achève ton œuvre en peu de temps. C'est ainsi que nous voulons prier aujourd'hui et remettre tout au Seigneur. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je me sentirai mieux et nous aussi, car nous travaillons dur, nous nous inquiétons de savoir comment cela va se passer, etc. Si nous pouvions aujourd'hui réussir ensemble à vraiment tout remettre entre les mains du Seigneur et lui dire, fais-le toi-même, fais-le toi-même. Pouvons-nous l'oser? Mais nous pouvons dire, Seigneur, que l'œuvre de tes mains te soit confiée. Nous ne savons pas ce que tu veux faire. Tu as un plan. Il est déjà prêt. Il est prêt à l'exécution. Combien croient que Dieu a tout fixé du début jusqu'à la fin dans un plan de l'histoire du salut? Dites amen. À 100%. Dieu ne planifie pas hier ou aujourd'hui. Le plan de Dieu a été fait avant que le temps ne commence. D'éternité en éternité, tout se déroule conformément à son plan. Même l'époque dans laquelle nous vivons actuellement et ce qui doit se produire maintenant font partie intégrante du plan du salut divin avec l'Église. Le retour d'Israël, une partie intégrante du plan du salut de Dieu pour la fin des temps. Car Dieu avait déjà fait les promesses à l'avance. Nous pourrions suggérer ou mentionner ici de très, très nombreuses choses et en parler. Dieu a fait un plan. Nous avons d'ailleurs rédigé une brochure intitulée « Le plan de Dieu avec l'humanité ». Et nous ne touchons toujours qu'un point ici et un point là. Que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Roi des Nations. Ne remarquez-vous pas comment tout devient plus clair et plus grand, même pour nous, que nous obtenons une relation toujours plus intime avec la parole qui nous a été prêchée, avec le message divin, que tout devient toujours plus clair et plus net pour nous. Nous sommes tous arrivés au terme de nos propres œuvres et nous reposons en Dieu pour le laisser agir. Il n'est pas en retard. Bien sûr, comme toujours, il ne vient jamais trop tard. Comme toujours, il utilisera des hommes maintenant aussi. Mais alors, comme il le veut, j'aimerais encore vivre la journée, la vivre vraiment de manière complète et directe, où Dieu conçoit le programme ici aussi, ou bien organise le programme, où nous nous réunissons et où la direction de l'Esprit sera si directe, si puissante sur toute l'Assemblée que tous seraient sous le contrôle direct du Seigneur, sous la conduite directe de l'Esprit, que Dieu distribuerait, que Dieu bénirait, que Dieu utiliserait, oui, qu'il pourrait se manifester selon sa volonté. Avec lui, tout est possible. Sommes-nous prêts à placer effectivement notre volonté dans la volonté de Dieu, à soumettre notre volonté à la volonté de Dieu? Je serais prêt à m'arrêter totalement aujourd'hui si je ne savais pas que ce qui se passe maintenant est en fait une préparation pour ce que Dieu va encore faire. Si je ne savais pas cela, j'allais arrêter aujourd'hui même. Mais je sais très bien qu'au temps de la famine spirituelle, Dieu a veillé à ce que la nourriture puisse être distribuée. La parole de Dieu a été rendue vivante et révélée, fraîchement révélée pour notre temps. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu place toujours sur le chandelier la parole qui est justement à l'ordre du jour, du temps déterminé, afin qu'elle s'accomplisse et se réalise. Ainsi, en ces jours, nous vivons de la parole de vie. Aujourd'hui, nous vivons de la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. C'est de cette parole-là que nous vivons. Notre foi est ancrée dans les promesses que Dieu a faites pour ce temps. Car tous les hommes ont une foi générale, mais seule la véritable Église du Dieu vivant a cette foi-là biblique. Seuls ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises maintenant ont la foi véritable biblique. Il y a une grande différence entre se tenir devant et ne lire que le verset de Matthieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou de s'asseoir dans une assemblée, dans une réunion où l'on sent directement que la parole réellement sort fraîchement de la bouche de Dieu. Et que ce n'est pas seulement qu'on lit ce verset, mais que réellement dans la réalité, la parole qui est prêchée, c'est une parole qui sort directement de la bouche de Dieu, qui ne vient pas de cet homme. Bien qu'elle soit déjà écrite, elle est placée sous le chandelier de manière tout à fait vivante, toute neuve. Nous voyons, nous entendons et nous vivons. Et c'est là la grande différence. Tout le monde peut lire ce qui est écrit. Mais la parole qui descend fraîchement du trône et qui est rendue vivante, mise en valeur et placée sur le chandelier dans son contexte. Seuls ceux qui font partie du chandelier d'or, font partie de l'Église, du Dieu vivant, la voix, la reconnaissent. Car notre Seigneur ne marche pas quelque part à Babylone, mais il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et si l'on entre aujourd'hui dans les églises, chacun sait ce qui sera prêché le plus tôt ou le troisième dimanche après la Trinité. Le programme est fixé pour toute l'année déjà à l'avance et il en va ainsi année par année. Mais la volonté de Dieu est que nous entendions la bonne parole au bon moment. Et Dieu nous le fait savoir avant même que cela n'arrive, afin que l'attente de l'accomplissement devienne grande en nous et que nous portions un désir de vivre les promesses de manière très personnelle. Le Seigneur frappe vraiment partout. À la porte, partout, et tous ceux qui entendent sa voix et ouvrent, il entre chez eux et prend son repas, son souper avec lui. Il entre chez eux et prend son souper avec eux, son souper avec eux. Je ne porte pas de jugement, mais je ne pourrais plus m'asseoir aujourd'hui quelque part où le culte dominical se déroule. Le culte de dimanche donc se déroule selon un schéma unique et où l'on ne fait qu'un programme à la manière des hommes. Nous devrions rendre davantage grâce à Dieu, car le sort nous est tomber dessus de la manière la plus douce. J'ose dire que Dieu nous a révélé sa parole et sa volonté. Pas d'arrogance, mais d'un cœur reconnaissant. Nous pouvons en témoigner véritablement. Et j'espère que tous le comprennent bien. Notre prière est que beaucoup d'autres parviennent à la connaissance de la vérité. Il relit Ésaïe 45, 11. Mes fils, et il le lit comme ça. Mes fils, confiez-moi l'ouvrage de mes mains. Mes fils, confiez-moi l'ouvrage de mes mains. C'est moi, en effet, qui ai fait la terre et qui a créé les hommes, le verset 12 de 1 d'Ésaïe 45. Sur elle, c'est moi dont les mains ont étendu les cieux et j'ai ordonné toute son armée terrestre et d'étoiles. Et j'ai ordonné toute son armée d'étoiles. C'est lui et personne d'autre. Il est Dieu. Il n'y a personne d'autre que lui. C'est à lui que nous faisons confiance pour achever son œuvre. C'est lui qui achèvera son œuvre et nous lui faisons confiance. Avec une grande puissance et une grande gloire, il le fera. Je sais que l'Esprit de Dieu s'est reposé sur nous, s'est posé sur nous. C'est une atmosphère glorieuse de Dieu. Je sais que la parole a produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et je sais qu'elle a pénétré plus profondément que jamais. Il n'y a jamais eu d'époque où la parole de Dieu a été aussi efficace qu'en ce moment. Rappelez-vous le verset du psaume 118. Voici le jour que l'Éternel a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse et donnons-lui la gloire. La gloire d'avoir reconnu le jour de sa visitation miséricordieuse, d'avoir reconnu et accepté le temps et le message. Nous marchons dans la lumière que Dieu nous a donnée par sa parole révélée. Et sa parole, la parole prophétique, brille comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Personne n'a besoin de rester dans les ténèbres. Il peut avoir la lumière de la vie, la parole de la vie, la lumière de la vie. Lui, le prince de la vie, nous a tout apporté. À lui, la gloire dans toute éternité. Amen. Amen. Levons-nous. Aujourd'hui, nous voulons, à cette occasion ici, remercier ensemble le Seigneur et lui consacrer à nouveau le pupitre, l'estrade, la chair, lui consacrer de tout cœur, non pas avec des critiques, mais par souci de l'Église. Simplement pour dire, Seigneur, nous sommes ici. Ta parole émane de ce lieu, que ce soit toujours en ton nom, dans ton esprit, selon ta volonté, un seul cœur, une seule âme. En ce temps-là, ils étaient ensemble, d'un seul cœur. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, d'un seul cœur. Nous reconnaissons que chacun suit son chemin avec Dieu. Rendons-lui gloire de tout cœur. Êtes-vous tous heureux que Dieu nous parle à tous de cette manière si naturelle, si pénétrante et pourtant si puissante. Si puissante. N'êtes-vous pas heureux de cela? La couverture n'est-elle pas enlevée de nos yeux, le voile? Amen. Frère Rousse, prie donc maintenant avec nous tous, puis nous prions encore ensemble. Père Céleste, nous te remercions ensemble pour ce week-end. Nous te remercions ensemble pour ta parole. Nous te remercions ensemble pour les bénédictions que nous avons pu retirer de tes paroles. Quelle grâce est la nôtre de pouvoir entendre ta parole en toute vérité et en toute clarté. Tu nous parles, Seigneur. comme à ton peuple, à tes fils et à tes filles. Seigneur, tu nous aimes. Seigneur, et tu nous parles avec tant d'amour. Nous te remercions pour cela. Nous t'adorons. Nous louons ton nom glorieux et nous te rendons gloire qu'à toi. Nous ne voulons pas glorifier un homme. Non, c'est à toi seul que reviennent l'honneur, la louange et l'adoration. Seigneur, tu as béni et tu continueras à bénir. L'adoration, Seigneur, soit à ton merveilleux nom. Reçois la louange, reçois l'action de grâce. Oh Seigneur, Seigneur, qui le fera si ce n'est pas nous? Seigneur, nous qui avons entendu ta parole, comment ne louerions-nous pas? Nous n'honorerions-nous pas et n'exalterions-nous pas ton nom? Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Nous les remettons devant toi, Seigneur, et nous te prions, nous les déposons devant toi. Nous te prions de leur accorder ta grâce et de te montrer le grand, comme le grand médecin et le grand sauveur. Seigneur, tu es toujours le même aujourd'hui. Louange et action de grâce. Gloire et adoration soient à ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen.